BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
Dimanche 4 mai, il est 13h, affaire suivante numéro 295. Soyez les bienvenus au sommaire. Aujourd'hui, Dominique, qu'est-il arrivé à Agathe Hilleret? Un peu plus de 3 semaines maintenant, après la disparition de la jobbeuse de 28 ans à Vivonne dans la Vienne, la question reste posée. Les recherches n'ont rien donné. L'ouverture d'une information judiciaire pour Ontrix pour enlèvement et séquestration n'a permis aucune avancée. Et toutes les pistes restent étudiées. Affaire suivante, fait le point dans un instant.
Ouais. Saura-t-on un jour la vérité sur la disparition de Julie Michel? Cette jeune femme de 26 ans s'est volatilisée en 2013, alors Ronald, qu'elle voyageait en Ariège. Clôturée en 2018, l'enquête a été réouverte le 3 avril dernier. La mère de Julie Michel parle d'une petite victoire. Elle sera notre invitée tout à l'heure dans l'affaire suivante.
Et puis, il explore chaque jour des affaires criminelles sur RTL, mort violente, disparition, assassinat, règlement de compte. Jean-Alphonse Richard publie un ouvrage consacré à ses plus beaux dossiers, des histoires passionnantes qu'il va évoquer aujourd'hui sur le plateau.
Ouais, Jean-Alphonse Richard, notre chouchou. Et c'est tout de suite affaire suivante.
BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
C'est la question qui préoccupe les habitants de la Vienne. Où est passée Agathe Hilleret? Partie de son domicile de Vivonne pour un jogging, la jeune femme de 28 ans s'est volatilisée, est introuvable depuis le 10 avril dernier. Depuis, les recherches ont été stoppées. Une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration ouverte, toujours sans aucun résultat. Pierre Le Gousset.
À la une de la presse locale, quelques jours après la disparition, un prénom, un mystère. Et pour les habitants, beaucoup d'émotions.
Je suis touchée parce que on se met à la place de la famille. Je vous dis, on a des enfants, des petits-enfants.
Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est décédée? On ne sait pas.
Des jours durant, les gendarmes ont fouillé, quadrillé, ratissé les champs et les bois aux alentours de Vivonne. À la recherche d'Agathe Hilleret, une joggeuse de 28 ans. Partie du domicile de son père le 10 avril pour faire son footing, elle n'est jamais revenue à la maison. N'a plus donné de nouvelles depuis. Habituée à courir sur des distances de 10 voire 20 km, Agathe connaît bien ses forêts, ses sentiers de terre qu'elle a souvent parcourus. Une zone parfois mal fréquentée, selon Didier, qui la traverse souvent à VTT.
Il y en a beaucoup qui viennent là sur des motocross, donc voilà. Et quand vous tombez sur un groupe, vous vous sentez tout seul, vous n'êtes pas en sécurité. Et moi, je conseille pour tous les sportifs qui roulent là de ne pas le faire tout seul.
Une question taraude les enquêteurs depuis. Qu'est-il arrivé à Agathe? En plus de l'hypothèse de la mauvaise rencontre, d'autres pistes ont été étudiées. Cette jeune femme décrite comme fragile et réservée aurait-elle choisi de fuir volontairement? Elle avait en tout cas prévu de se rendre à une fête d'anniversaire quelques jours après sa disparition. Aurait-elle fait un malaise ou chuté lors de sa course? Les gendarmes ont déjà passé la zone au peigne fin. Des battues ont été organisées, un hélicoptère ainsi que des plongeurs ont été mobilisés. Des recherches de terrain qui se poursuivent encore aujourd'hui, mais sur des lieux précis. En parallèle, des questionnaires sont distribués aux automobilistes. Ils seront ensuite épluchés par les autorités à la recherche de pistes.
Et Dominique, nous accueillons sur le plateau Gilles Rex, bonjour.
Bonjour.
Ancien major à la police technique et scientifique de la PJ de Paris, auteur de Parmi les morts aux éditions Mareuil, à vos côtés Florian Gattarias, bonjour. Vous êtes psychocriminologue. Les dernières informations, nous sommes à peu de 3 semaines, on tenait avec Dominique à faire le point sur cette disparition, forcément inquiétante. L'une des dernières informations, c'est la distribution d'un questionnaire à des automobilistes, on va y revenir, mais aussi le fait qu'il y a des recherches qui, de nouveau, se focalise sur des zones extrêmement petites, proches de la commune de Vivonne où Agathe vivait. Qu'est-ce qui fait qu'on se redirige vers ces zones-là, Gilles Rex?
Justement, peut-être grâce aux questionnaires qui sont donnés aux joggeurs, aux promeneurs, aux automobilistes. Et peut-être les enquêteurs ont-ils aussi de nouvelles pistes? Peut-être ont-ils trouvé aussi des traces ou des indices intéressants dans ce secteur-là?
Florent Gattarias, comment, dans une enquête criminelle comme ça, est-ce que les enquêteurs ont, comme quand on monte dans un avion, pilote copie, une checklist des choses à faire? Puisque là, une semaine, on dit hein, le jeudi, donc on est une semaine ou 15 jours après, les enquêteurs vont distribuer des questionnaires jour de la disparition, en espérant peut-être qu'une personne qui a l'habitude de passer là ce jour-là va repasser ou a vu quelque chose.
C'est pas aussi simple que ça. C'est pas une checklist. C'est des habitudes de travail qui ensuite se diversifient en fonction des problèmes qui peuvent être rencontrés, qui doivent être résolus. Chaque situation est différente. Donc il faut que l'inventivité, l'ingéniosité des enquêteurs se développe pour cette affaire-là. Le fait de chercher comme ça des informations sur tous azimuts par les questionnaires, c'est une idée qui souvent permet de recouper des informations par le biais d'analyses de logiciels style Anacrim, qui permettent de pouvoir faire de rapport entre deux informations qui, a priori, à la première vue de l'enquêteur, ne serait pas, il y aurait pas de coïncidence, oui. Et tandis que là, effectivement, on peut rassembler tout ça pour en faire quelque chose qui peut donner quelque chose de beaucoup plus concret. Ça n'était pas forcément prévu au départ.
Ouais.
C'est pour ça que c'est pas dans la
checklist. Et ça évolue.
Et ça évolue.
Alors, question à tous les deux, je la repose un peu autrement, mais pardon pour cette comparaison un peu osée, mais est-ce que l'enquête criminelle, ça pourrait être comme un jeu de société dans lequel on dirait, au moment où une personne disparaît, il faut demander aux opérateurs de geler les données pour les conserver. On demande à Orange, à SFR, à Bouygues, etc., à Free, de bloquer toutes les gelées sur les comment on appelle ça, les endroits où sont passées les personnes. Oui. Quoi. Donc, je vais pas y arriver.
Retrouver les acteurs, geler
l'appareil. Comment ça s'appelle
Les bornes.
Première chose. Deuxième chose. Une semaine après, revenir voir si. Troisième chose, geler la scène de crime. Quatrième chose, les voitures qui sont passées par là, les téléphones. Mmh. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas?
Le problème, c'est la rapidité en fonction de ce que l'on estime être l'intensité des moyens nécessaires pour la recherche. Oui, il faut d'abord geler les données des bornes.
Sur les bornes, voilà.
Sur les bornes, mais pour ça, il faut considérer qu'il y a un contexte criminel. Ça a été le cas avec la judiciarisation de cette disparition. Auparavant, c'était pas aussi évident que ça. Alors il y a un délai sur lequel on peut geler ces données. Donc c'est une machine qui se met en marche et qui avance au fur et à mesure de ce que l'on trouve.
Oui, mais je dirais que on dit souvent que les 48 heures sont les plus importantes.
Oui.
Donc c'est après aujourd'hui on est passé dans une autre façon d'enquêter.
Effectivement. Mais aussi il faut dire que considérant la victime, c'est une victime qui est mobile. Rappelons qu'elle est partie faire un jogging. On ne sait pas exactement par où elle est passée.
Son téléphone a borné à 10 km de chez elle. Téléphone qu'elle portait à son poignet courant.
Voilà, c'est ça. Donc après, effectivement, il va falloir geler des données à 10 km et puis dans un périmètre beaucoup plus grand aussi, quoi. Et ça va être la difficulté. Mais effectivement, vous avez raison, dans les premières heures, ce sont les premières minutes et les premières heures qui sont les plus importantes.
Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font maintenant, les enquêteurs? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'ont pas fait dans ces 48 premières heures? Parce que ce n'était pas l'urgence, c'est parce qu'ils avaient une forme d'urgence qu'ils n'ont peut-être plus. Et qu'est-ce qu'ils ne font plus aujourd'hui?
Ils font justement tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils estiment devoir faire maintenant, c'est-à-dire élargir les recherches, demander à la population alentour de leur donner un coup de main, en fait. Et puis, ce qu'ils ne font plus, c'est qu'ils n'explorent plus certaines pistes qu'ils considèrent comme moins importantes, par exemple la piste de la disparition volontaire, je suppose. Donc ça, ils ne s'occupent plus de ça. On s'en éloigne de plus en plus. Et là, ils vont se reconcentrer sur quelque chose de très inquiétant, puisque maintenant des fouilles, des battues ont été faites, comme ils font d'habitude. Maintenant, ils ont l'habitude de faire ça, évidemment, avec des caméras thermiques, des hélicoptères, les chiens, des personnels militaires.
Des plongeurs aussi, également.
Des plongeurs, donc des drones, en fait. Et ça, si ça n'a rien donné, ce qui est vraisemblablement le cas, il n'y a aucune trace, aucun indice probant qui a été retrouvé jusque-là. Eh bien, donc là, il va falloir qu'ils passent et qu'ils explorent plus la piste criminelle, vraisemblablement.
Ah, avec vous, Gilles Rex, on a l'aspect technique de l'enquête, et avec vous, Florent Gattarias, on a l'aspect, on disait ça en préparant l'émission avec Ronald, si. Est-ce que la personnalité d'Agathe, particulière, elle est jeune, elle est anorexique, elle pèse 35 kilos, c'est une coureuse d'habitude, elle fait du semi-marathon, 21 km, c'est de la route quand même. Est-ce que l'aspect psy, il a une importance, il revêt une importance particulière dans cette enquête.
Oui, bien sûr, parce que dans les différentes pistes, les pistes traditionnelles dans une disparition, c'est disparition volontaire, dont le suicide, accident, et intervention d'un tiers qui peut être soit connu, soit inconnu. Là, dans ce cadre-là, la disparition volontaire et le suicide, avec le temps qui passe, avec les éléments que l'on a pu obtenir sur sa préparation à sa sortie ce jour-là en forêt, la piste suicidaire devient de plus en plus difficile à...
Pardon de vous poser la question directement, mais parce que s'il y avait eu suicide, il n'y aurait pas eu forcément volonté de cacher ce suicide,
oui,
et donc de se cacher, de dissimuler à ce point-là.
C'est rare qu'une personne qui se suicide cache son corps. Au contraire, un suicide en soi est un message. Donc, pour que le message passe, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vu. Donc, alors, effectivement, il y a toujours des exceptions, mais globalement, c'est ça. Alors, l'accident est toujours possible. Rappelez-vous l'affaire Pauline Lafont. On l'a cherché longtemps. Et c'est toujours une possibilité. Ensuite, quand même, plus on cherche, plus on se rapproche d'un déplacement de la personne, vivante ou morte. Et à ce moment-là, l'intervention d'un tiers devient l'hypothèse la plus, non pas forcément la plus crédible, mais celle sur laquelle on va le plus s'attarder, parce que c'est celle sur laquelle il y a le plus d'éléments à chercher.
Là, on revient au départ, on se dit, on revient au bureau, on n'a pas retrouvé Agathe, on l'a cherchée partout.
Oui.
Donc... quels sont les moyens? On va faire appel à la technique, la téléphonie. Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il va y avoir tout un tas de choses qui vont être développées, qui sont contraignantes, qui prennent du temps, qui sont très chronophages. C'est-à-dire toute l'exploration de l'environnement social de la victime, de la personne disparue, de l'environnement social, familial, amical, professionnel, les réseaux sociaux, les perquisitions dans son domicile, dans sa chambre. Récupérer tout le matériel informatique qu'on peut, et ça c'est long, ça prend du temps, hein. Les enquêteurs vont aller gratouiller là-dedans et chercher des fils infimes pour essayer de remonter en parallèle des recherches qui sont faites sur le terrain.
Parce que Dominique, ce qu'il faut préciser à nos téléspectateurs, c'est que l'ouverture d'une information judiciaire, ça a des conséquences très concrètes. On n'a pas besoin d'accord pour les perquisitions, j'ai noté, les gardes à vue peuvent être prolongées, on peut également avoir recours à des écoutes téléphoniques beaucoup plus facilement.
Bien sûr, les enquêteurs ont plus de liberté pour travailler, le cadre judiciaire s'élargit, on ne va pas entrer dans tout l'aspect technique, mais c'est vrai que le cadre judiciaire s'élargit et que ça leur permet des moyens supplémentaires, des expertises, des demandes d'expertise. Sur ces expertises, quand vous dites tout à l'heure on va bosser sur son matériel électronique, on va bosser sur les perquises, il faut des enquêteurs spécialisés parce que tout le monde ne peut pas. Moi, je suis incapable, ou je connais pas beaucoup d'enquêteurs qui sont capables d'aller chercher dans mon téléphone ou dans un téléphone des infos. Déjà, il faut casser le téléphone, il faut avoir le code. Qu'est-ce qu'on va chercher?
Bien sûr, tout ce matériel-là va être donné à des spécialistes. Il y a un département qui s'occupe de l'informatique. Si ce sont les gendarmes qui s'occupent de cette affaire, ce matériel-là va être remonté à l'IRCGN.
Où là, on a l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.
Ah, c'est ça,
si c'est la police.
Ben c'est pareil, il y a des spécialistes en informatique qui vont décrypter, il y a des unités cyber, des unités informatiques et des unités très spécialisées en téléphonie. Nous, au SRPTS, au service régional de police technique et scientifique de Paris, il y a des cellules, il y a une section qui s'occupe de la téléphonie, de l'imagerie, du son, et qui peut décrypter et analyser tout ce que contient un appareil comme ça.
Ce que contient un appareil, ce qui est intéressant aussi, c'est la raison de votre présence à tous les deux, c'est qu'il y a des data brutes, des données brutes. Mais est-ce qu'on peut aussi, si ces données brutes ne donnent rien, analyser la psychologie de ce qui apparaît ou non? Parce que c'est aussi, on imagine que dans des échanges, dans un texto envoyé par une victime présumée, il y a aussi des messages qui sont des messages subliminaux sur l'état d'esprit, sur peut-être des volontés ou des possibilités qui ne se sont pas encore avérées. Est-ce que c'est aussi un travail qui peut se faire par rapport aux data non brutes?
Bien sûr. Alors, il y a ce côté relationnel qui est important, mais il y a aussi tout le côté comportemental. Le téléphone va permettre aussi de connaître les déplacements. Les déplacements donnent des habitudes. Ces habitudes vont être confrontées aux recherches. Et là, ce sera d'autant plus des éléments qui permettront d'affiner la recherche. Au niveau relationnel, puisqu'il y a cette Le fait que l'on considère qu'elle soit fragile, alors c'est une fragilité particulière, il faudrait... Elle est fragile mentalement et physiquement, et même si elle fait 35 kilos, c'est quand même une grande sportive.
Oui, bien sûr. Elle court donc, tous les jours entre 10 et 20 kilos.
Tout à fait. Je suis incapable de le faire. Cette fragilité-là ouvre certaines hypothèses. Il faut pouvoir les investiguer et essayer d'en faire quelque chose. Néanmoins, encore une fois, la piste disparition volontaire, voire suicide, paraît plus délicate actuellement.
Autre question qu'on se posait tous les deux en préparant la mission. Qui est-ce qui prend soin? Est-ce que quelqu'un prend soin des parents d'Agathe? Est-ce que quelqu'un les rassure, les tient au courant? Sinon le procureur, qu'il les appelle pour, j'imagine. Mais est-ce que sur le terrain, quelqu'un comme vous, un psychocriminologue, peut aller les voir en leur disant on fait le boulot, on fait tout ce qu'on peut, autre chose qu'une réponse de procureur ou une réponse technique, une réponse humaine?
Ça dépend des services qui sont des services de police ou de gendarmerie qui sont impliqués, la proximité, la possibilité d'avoir un psy à disposition ou pas. Il y en a de plus en plus, mais pas partout. Dans l'affaire présente, je ne sais pas ce qui a été fait précisément. Néanmoins, la gendarmerie a largement les moyens de faire des propositions de soutien, ne serait-ce que pouvoir amener la famille à d'autres services de soutien psychologique, s'il le faut.
Et une dernière question à tous les deux, parce que vos réponses seront peut-être différentes, mais est-ce que le temps joue en faveur de la vérité ou contre la vérité, dans ce type de, vu votre expérience?
C'est Locard, hein, je dis toujours ça, mais c'est Locard qui disait que le temps qui passe sur une affaire criminelle ou très intense comme ça, le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. Et ça, je pense que c'est une vérité qui existe depuis la nuit des temps. Même si aujourd'hui, on a la possibilité de remonter sur des informations très importantes. Mais malgré tout, plus ça va vite et plus on a de choses dès le départ, et mieux c'est pour tout le monde.
Alors Locard disait ça, c'est qui Locard
pour ceux qui... Locard, c'est un médecin français qui a été le premier à créer le premier laboratoire de police technique et scientifique au monde. C'était en 1910 à Lyon.
Et Florent Gadarias, qu'est-ce que vous en pensez de ce temps qui passe et de cette vérité qu'on ne connaît pas?
Effectivement, une enquête criminelle, c'est presque un entonnoir, c'est-à-dire qu'on inversé. On s'occupe d'abord des choses évidentes, parce que on sait que c'est ce qui donne le plus de résultats dans une enquête, et plus le temps passe, plus on élargit le champ des recherches. Et donc plus on l'élargit, plus on disperse les moyens, et donc plus c'est difficile.
Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes et d'avoir évoqué cette affaire, mais aussi à la façon dont on travaille pour ce type d'enquête extrêmement compliquée. On suivra évidemment avec Dominique cette affaire de la disparition d'Agathe. Dans un instant, un mystère et le combat d'une mère. Affaires Suivantes va revenir sur la disparition de Julie Michel à 26 ans en 2013 sur le parking d'un col des Pyrénées. L'enquête vient de rouvrir. C'est dans un instant. Retour en direct sur le plateau d'Affaires Suivantes. C'était il y a 12 ans. Julie Michel, une jeune Auxerroise de 26 ans, disparaît dans les Pyrénées. Sa voiture, avec toutes ses affaires, est retrouvée sur le parking du port de Lers en Ariège. Depuis, le dossier ouvert pour disparition inquiétante a été clos. En juillet 2023, la mère de Julie dépose une nouvelle plainte pour homicide volontaire, enlèvement, séquestration. Le dossier est finalement ouvert. Pierre-Emmanuel Bousset.
Julie Michel a prévu un beau voyage, un road trip en voiture, direction le sud-ouest. Elle a 26 ans et après être partie de sa ville d'Auxerre en juillet 2013, fait un premier arrêt à Lacanau pour y passer quelques jours avec son petit ami. Julie poursuit ensuite sa route seule vers les Pyrénées. Le 18 juillet, elle gare sa voiture sur ce parking du port de Lers dans l'Ariège. Mais à partir du lendemain, plus de nouvelles d'elle. Sa mère inquiète, alerte les gendarmes. Début août, la voiture de Julie Michel est retrouvée garée, toujours sur le même parking. À l'intérieur, son sac, ses chaussures, ainsi que les courses qu'elle avait faites quelques jours auparavant. Des battues sont organisées pour fouiller les reliefs alentours. En vain. Plusieurs pistes sont examinées. Suicide, accident, fuite volontaire. En 2018, l'enquête pour disparition inquiétante est clôturée. Mais la mère de Julie refuse de baisser les bras. Elle multiplie les courriers, relance un appel à témoins. Le mois dernier, le tribunal judiciaire de Toulouse annonce finalement la réouverture du dossier. Un nouvel espoir de découvrir ce qui est arrivé à Julie Michel.
Et Dominique, pour en parler, nous accueillons Betty Lefebvre. Bonjour. Merci d'être surpris. Vous êtes la mère de Julie Michel, à vos côtés, maître Cathy Richard. Bonjour, merci également d'être là. Vous êtes l'avocate de votre voisine, madame Lefebvre. Une première question, avant d'évoquer l'espoir de cette ouverture, on évoquait il y a quelques instants l'inquiétude autour d'Agathe, cette joggeuse. Est-ce que ce type d'affaire fait systématiquement ressurgir de la tristesse ou du choc ou de l'espoir de savoir ce qui est arrivé à votre fille?
Alors là, les... effectivement, ça ravive des souvenirs. Là, je suis toujours en quête de savoir la vérité tout le temps. Donc, effectivement, ça me touche dès que j'entends des nouvelles comme ça. Et puis là, par contre, ça a été pris tout de suite. Et malgré la rapidité de l'affaire, pour l'instant, il n'y a rien. Moi, ça fait 12 ans, 12 ans que je cherche. Et,
C'est quoi, Betty, votre vie depuis la disparition de Julie, depuis 12 ans?
Alors depuis 12 ans, eh bien c'est l'horreur. Enfin c'est l'horreur. C'est la douleur, le manque, et aussi j'ai ma vie maintenant à côté avec mon autre fille Claire, et j'ai le bonheur d'être mamie depuis 6 mois presque. Donc voilà. Et puis il y a l'action, parce que depuis 12 ans je me suis j'ai bougé, j'ai cherché dans un premier temps, et puis j'ai tenté, quand ça avait été fermé, j'ai tenté de la réouverture pendant 7 ans. Je me suis battue pour la réouverture, et ce qu'on a réussi à obtenir le 3 avril dernier avec maître Richard.
Maître Richard, justement, ce que t'explique souvent, et à raison et très bien Dominique, c'est que pour qu'on connaisse la vérité, il faut parfois le combat d'une famille, d'une maman, le combat d'un avocat, le combat d'un juge, le combat d'un gendarme. Est-ce que ce qui se passe en ce moment depuis quelques semaines, c'est aussi la conséquence de l'engagement de Madame Lefebvre?
Ah oui, de toute façon, effectivement, c'est certain que si Bettine s'était pas battue, on n'aurait rien. Il y avait un début de recherche. On était sur une enquête, une instruction sur disparition inquiétante. Et puis on fait le tour, et puis on se dit, on n'a rien. Et il y a un non-lieu qui est rendu sur la disparition inquiétante. Et puis après, il faut revenir dire, attendez, votre disparition inquiétante, là, stop. Effectivement, il y a un non-lieu parce que c'est pas une disparition inquiétante. Mais c'est pas une disparition inquiétante, mais c'est pas non plus une disparition dite volontaire, mais c'est pas non plus un suicide. Cette porte, on peut la fermer, et c'est pas non plus un accident. On a pu fermer cette porte. Donc, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que j'entendais dire tout à l'heure sur ce plateau pour Agathe. C'est forcément une mauvaise rencontre. Et donc, aujourd'hui, on sait que si Julie, elle n'avait pas fait une mauvaise rencontre, elle serait aujourd'hui, peut-être dimanche, avec sa maman.
Cette affaire, elle est entêtante. On a l'impression que Julie a disparu dans le trou noir du ciel. Les physiciens appellent ça le boson de Higgs. Il y a quoi de concret dans ce dossier? Il y a quoi?
De concret dans le dossier, c'est aujourd'hui les pistes refermées, comme souvent. C'est les portes qu'on ferme.
Les portes qu'on ouvre.
Aujourd'hui, de concret, c'est que on sait que Julie a fait une mauvaise rencontre. Et c'est terrible à dire, mais on sait qu'aujourd'hui, Julie, elle est décédée. On a fait, il y a un subsidiaire sur enlèvement séquestration, parce que il y a toujours l'hypothèse de, je me souviens de quand il y avait eu cette petite là qu'on avait retrouvée en Allemagne, que ça a ravivé des tas de
Natacha Campouche,
où ça avait ravivé chez les parents de disparus des tonnes d'espoir.
Tu m'as dit aussi au Portugal.
Avec l'espoir, c'est un venin aussi, hein. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'il y a au moins un enlèvement. Un homicide. On sait qu'il y a quelqu'un derrière la disparition. Vous savez, elle a laissé sa voiture. Dans la voiture, il y avait de la nourriture. Julie, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais laissé de la nourriture.
Et sac, chaussures, sandalettes, très chaud et coursier.
Et si la piste... on se posait cette question avec Ronald. Et si la piste de la secte, quand même?
Alors, ça, c'est très intéressant, Dominique. Merci d'en parler, parce que la secte, au contraire, ça nous permet d'évacuer toute idée de disparition. D'évacuer toute idée de disparition volontaire. Parce qu'elle était très attachée à cette secte. Elle faisait ses incantations, elle faisait tout.
Et si elle était partie chez eux?
Et bien, justement, on sait qu'elle n'y est pas.
Non, et puis en plus, il n'y avait pas un endroit précis. Elle avait la Gourelle en Belgique, que la, enfin la recherche, enfin les recherches.
La patronne de la secte, la Gourelle.
Voilà, la Gourelle. La gendarmerie de Rosny-sous-Bois a été jusque là-bas. Et donc là, c'est écarté à 100%.
Et justement, eux aussi, ils ont perdu trace d'elle. Ouais.
Mais c'est qu'est-ce ça, que vous disiez justement de ce rapport? Parce que c'est une secte qui était un peu particulière, mais elle prenait notamment le retour à la nature, l'éloignement de ce qu'on appelle société de consommation. Voilà. Donc c'est vrai, quand on regarde ça, on dit même si personne n'a parlé, même si ce n'est pas prouvé, après tout, pourquoi pas? Pourquoi elle n'a pas été convaincue, elle ne s'est pas auto-convaincue d'aller s'éloigner elle-même de cela? Vous dites aujourd'hui, c'est non.
Mais ce serait pas dans ces conditions. Et puis pas toute seule comme ça.
Qu'est-ce qu'elle vous en disait de cette secte et de ses relations? Elle vous en parlait?
Elle était très très discrète. Et elle nous en a parlé une fois et puis ensuite elle s'est tue parce que nous on était ébahis là avec mon autre fille, sa sœur, et on s'est dit mais j'ai... et donc bon, elle a été discrète.
Mais c'était pas, enfin, mais elle était discrète, mais c'était pas non plus complètement caché. C'était oui, pas tabou. Elle faisait ses incantations.
Oui, mais elle en avait pas parlé à ses amis. Voilà.
Oui,
non
oui.
Plus,
elle faisait ses incantations plusieurs fois par jour. Enfin, justement. Et puis c'était à heure très régulière, etc. Oui. Et dans cette idée de retour à la nature, on aurait pu imaginer. De toute façon, ça collait avec ses projets. Elle était pleine de projets, Julie. Elle voulait aller faire de la permaculture.
C'est bien pour ça qu'effectivement, l'intervention d'un tiers est aujourd'hui évoquée.
Oui.
J'ai du mal à comprendre le rapport entre ce qu'elle projetait. Et cette disparition.
Oui, puis en plus, on échangeait par téléphone les messages. Elle me dit, maman, je suis bien arrivée. Même à 3h du matin, elle m'a envoyé un message pour dire, voilà, ne t'inquiète pas, je suis bien arrivée.
Donc, vous êtes très forte. Hein. Donc, pour vous, vous acceptez l'idée qu'il n'y ait plus de Julie?
Difficilement.
On peut pas demander
très
ça.
Très difficilement.
Parents.
Moi, c'est vrai que tant que je n'ai rien
trouvé.
Pardon,
c'est violent comme question.
Non, mais tant que je vous réponds, Dominique, parce que en tant que maman, tant que je n'ai, enfin, il n'y a pas eu de preuves.
Attention.
Pour moi, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Mmh. Alors, effectivement, la mauvaise rencontre, mais je peux dire aussi, peut-être qu'elle est séquestrée quelque part.
Mmh. Ah oui.
Ça, c'est au mieux.
Mmh. Voilà. Les preuves, on espère que la section de recherche de Toulouse va en trouver, puisque c'est désormais elle qui a rouvert l'enquête. Pourquoi la section de recherche? Pourquoi pas le pôle cold case de Nanterre? Et que doit faire ou qu'est en train de faire ce pôle, cette section de recherche? C'est qu'il y avait des touristes allemands qui avaient été interrogés. Est-ce qu'il faut les réinterroger? Qu'est-ce qu'ils vous disent à vous?
On a un certain nombre de pistes qu'on a pu indiquer au juge d'instruction. Dans cette affaire, il faut savoir qu'on parlait tout à l'heure des indispensables. Mmh. Famille, indispensable. Mmh. Avocat, un petit peu utile. Mais indispensable aussi, les bénévoles. Ouais. Et là, on rend un coup de chapeau tout particulier à des bénévoles. À David qui s'occupe de ça depuis le début.
Ah bah sans lui,
c'est qui David Duval?
C'est un touriste. Enfin, il était en vacances avec sa famille et il a vu Port de l'Hers comme un Breton. Il a dit, tiens, le port, pourquoi pas? C'est bizarre en montagne. Donc, il y est allé. Comme on met des affiches de Julie un peu partout, il a vu et il a dit donc il est allé sur le site et en 2016 il a recherché tout depuis 2016 il n'arrête pas.
C'est quelqu'un qui est passionné pour cette affaire. Mais il y a aussi les bénévoles de la RPD aussi
en 2017
qui est une association qui fait beaucoup pour les personnes disparues,
association de recherche des personnes disparues.
Voilà, et donc ces personnes ont permis quand même de trouver des pistes. On a eu des témoignages, il y a des pistes à creuser et je vais dire même franchement, dans ce dossier, il y en a beaucoup. Moi qui connais d'autres dossiers de disparition, dans ce dossier, il y a vraiment plusieurs pistes et plusieurs pistes qui sont intéressantes.
Pouvez-vous nous parler?
D'aucune. Alors, je vais être très claire. D'aucune. Non. Parce que moi, il n'est pas question que je mette la puce à l'oreille des personnes qui auraient pu être éventuellement mêlées à cette disparition et que je n'ai pas non plus je n'attire pas d'ennui à des gens qui ne seraient pas mêlés. Voilà. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que, à Toulouse, une juge d'instruction est désormais en charge et nous a reçus avec Betty. Et elle est en charge.
Elle a entendu,
Elle a entendu
ce qu'il y avait à faire
Et elle a saisi la section de recherche de Toulouse. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important.
Est-ce que disait Renat tout à l'heure, et pourquoi pas le pôle? Et est-ce que ça aurait été mieux le pôle? Est-ce que vous auriez eu plus d'espoir?
Pôle Colquay, j'ai l'enterre. Enfin, non, j'ai eu, pardon.
Alors, pour le cold case, pourquoi pas? Alors, je pense que c'était pas indispensable parce que finalement, le non-lieu pour disparition inquiétante est pas si ancien que ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, mais enfin bon, bref. Mais, par rapport à d'autres dossiers.
Bien sûr, bien sûr.
Moi, je vais vous dire franchement. Ça me va très bien. Je suis ravie d'avoir une juge d'instruction sur place.
Et puis une question de la reconnaissance de la région.
Je suis ravie d'avoir la SR sur place. D'ailleurs, je vous fais un petit scoop. J'ai d'autres dossiers qui sont suivis au pôle Cold Case. Et notamment la disparition aussi de Cécile Valin, où on avait des problèmes avec Monique Olivier qui voulait pas parler à la juge en question, qui disait on choisit pas son juge et ça. Et maintenant, enfin là, depuis quelques jours, on vient d'apprendre que Sabine Kéris, à qui veut bien parler Monique Olivier, a été nommée dans le dossier de Cécile Valin.
Cécile Valin, il y a combien de temps?
Il y a un soulagement. 1997. Ouais.
Okay. Cette juge de Toulouse, alors, et on la salue si elle nous écoute.
Ah oui. Je la remercie.
Et c'est magnifique. Voilà. Elle vous a reçu. Elle vous a dit quoi? Elle a été comment avec vous?
Ah ben, elle a été. Enfin, moi, je l'ai sentie humaine. Et je me suis dit, peut-être que je vais être entendue. Voilà. Et effectivement, alors au départ, c'était. J'ai eu un petit peu, parce que elle est aussi sur la disparition volontaire. Elle dit, voilà, Julie, elle avait envie de changer d'air, etc. C'est réel. Mais comme une jeune de 26 ans, voilà, on a envie de.
Partie d'Auxerre, elle va à la Cano voir son petit ami.
Oui,
et puis après, elle part dans l'Ariège, donc
voilà, elle était partie aussi, en Amérique latine pendant 2 mois. Donc, elle avait envie de voyager. Elle avait envie après d'aller en Inde, etc. Donc, voilà, une jeune de 26 ans la vie, elle a la vie devant elle. Mais alors après, ben, le truc, c'est que j'ai pas eu de nouvelles et Julie, elle nous aurait jamais laissé sans nouvelles. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est ce que m'a dit Claire aussi. Elle m'a dit, maman, Julie, jamais elle nous aurait laissé comme ça. Elle qui nous disait toujours, je suis arrivée, ne vous inquiétez pas.
Alors ça, c'est. Donc, on va dire, je me permets d'interrompre Becky, parce que ça, c'est subjectif. Et on peut penser que tous les parents peuvent penser la même chose. Mais on a des éléments objectifs nombreux qui permettent d'écarter la disparition dite volontaire, comme on le dit habituellement. Je veux dire, elle n'est pas partie faire de la danse quand elle est partie en Inde, quand elle avait envie d'aller en Inde, quand elle est partie en Amérique du Sud. En fait, elle était toujours dans cette recherche de nature, de trouver un sens. Et justement, c'est tout ça qui permet d'évacuer complètement l'idée qu'elle laisse une voiture pleine de ses affaires à un endroit précis. Et qu'elle n'ait rien pris avec
elle. Et surtout en haute montagne.
En haute montagne, voilà.
On est quand même sur
les pataugas sont dans la voiture.
Oui, il y a pataugas. J'ai tout noté. Le sac et chaussures, les pataugas, les petites sandalettes, le réchaud et les courses qu'elle avait faites auparavant.
Qui sont du coup périmées dans la voiture. Enfin, c'est un truc.
Est-ce que ça a bougé ensuite? Est-ce qu'elle a une carte bleue sur laquelle il y a du mouvement? Est-ce qu'il y a du mouvement sur son compte en banque? Est-ce qu'elle a un téléphone portable?
Aucun mouvement. Et elle a laissé de l'argent liquide dans son portable.
Et le portable, elle a un portable?
Dans la voiture.
Il est dans la voiture aussi?
Oui, tout. Choses sur la secte.
La seule chose, justement, je voudrais dire quelque chose de très important que vous nous permettez de faire ici. Hein, c'est elle, son téléphone portable dans la voiture. Son téléphone portable, il parle pas, il nous dit rien de spécial. En revanche, on est là, et là, écoutez-moi bien tout, s'il vous plaît. On est au mois de juillet 2013. On est au mois de juillet 2013. Il y a des gens en vacances. Le port de l'Hers, c'est un endroit qui est visité.
On s'arrête, on se gare et on va faire des randonnées.
Voilà, on sait que la veille, elle était à Massat, où il y a un petit marché nocturne d'artisanat, etc.
Jeudi 18 juillet.
Voilà, jeudi 18 juillet 2013, elle est à ce marché nocturne. Ce qu'on appelle aujourd'hui impérativement, c'est tous les gens qui nous écoutent, qui auraient pu être dans cette région à cette époque, qui regardent les photos qu'ils ont prises, qu'ils envoient les photos qu'ils ont prises aux enquêteurs. On peut trouver un indice, on peut voir quelque chose sur une photo, à l'arrière, un arrière-plan. Tout peut servir. Donc vraiment, j'appelle impérativement tous les gens qui auraient pu être en vacances au mois de juillet et très particulièrement plutôt 17, 18, 19 juillet Voilà. Autour 2013, de massacres.
2013, on les envoie. Comment les envoie ces photos? Si quelqu'un les a.
À la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse. Et j'ajouterais, si je peux me permettre, si jamais quelqu'un sait ou a vu quelque chose, justement à ces dates-là, dans le, parce que elle s'est baladée à Massat. Elle est allée à l'office du tourisme, elle est allée au Maxil Café. Voilà, donc il y a eu déjà un témoin qui l'avait vue. Elle a dit, bah, moi j'ai vu ta gamine, voilà. Mais si quelqu'un sait, parce que c'est un petit village, hein, et je suis persuadée qu'il y a eu quelque chose et que quelqu'un sait quelque chose.
Donc, ou sur votre site internet, vous dites aussi, vous avez un site où on peut vous.
Voilà, juliemichel.fr et je voilà, et il y a David Duval qui récupère toutes tes informations
et la puis SR,
voilà la SR et là voilà.
Donc vous pouvez nous aider. Quelqu'un sait quelque chose, forcément quelqu'un sait quelque chose en sachant qu'il sait ou sans le savoir. Et vous avez peut-être des documents qui peuvent nous être utiles.
Merci à toutes les deux d'avoir été sur le plateau.
Merci à vous.
On suivra évidemment.
Merci beaucoup.
Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, on suivra évidemment l'enquête ouverte. Merci et merci gentil, merci beaucoup à toutes les deux.
Oui,
on va retrouver l'invité de la semaine. Il explore chaque jour des affaires criminelles sur RTL. Morts violentes, disparitions, assassinats, règlements de comptes. Jean-Alphonse Richard publie un ouvrage consacré à ses plus beaux dossiers. Des histoires passionnantes qu'il va évoquer aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour à tous les deux.
Je ne vous présente pas Dominique Rizet puisque vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir de très nombreuses reprises.
Vous nous manquez, ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu.
Absolument, et moi je me demandais ce qui se passait, mais je suis toujours ravi de venir vous voir. Donc, voilà,
il fallait faire naître le désir. Le manque vient du désir et le désir vient du manque. Pourquoi vous avez fait ce livre et est-ce que ça change de votre travail habituel sur RTL?
Alors, le livre, c'est la continuité presque naturelle de l'émission L'Heure du Crime, hein, qui est une quotidienne chez nous sur RTL. Et évidemment, on a repris avec Justine Vigneault, qui est la rédactrice en chef de l'émission, on a repris ce qu'on pense être des très bonnes histoires qu'on a fait dans L'Heure du Crime, parce que ce qu'on essaie de faire, et également dans l'affaire suivante où on suit l'actualité, où je viens souvent et avec plaisir, on essaie de sortir des histoires qui sont pas très connues, où la documentation est difficile à trouver, où la mémoire a été effacée souvent, etc. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Voilà pourquoi on a décidé de faire ce livre. 30 histoires.
Il y en a une ou deux ou quelques-unes qui vous ont marqué, et si oui lesquelles et si oui pourquoi?
Alors, les 30 histoires m'ont marqué. Je vais pas faire un classement parce que il faut savoir qu'en matière de faits divers, Dominique connaît ça par cœur, il y a pas une histoire qui se ressemble. Quand vous dites cold case, ben, il n'y a pas un cold case qui se ressemble. Quand vous dites un assassinat, il n'y a pas un assassinat qui se ressemble, il n'y a pas une psychologie qui ressemble à une autre. Alors, les histoires, on peut en évoquer quelques-unes, si vous voulez.
On voulait choisir.
Voilà, je vous
parlais. Vous voulez,
je vous parlais d'une histoire qu'on connaît mal et qu'on connaît peu, même si elle a fait énormément de bruit à l'époque. Un bruit étouffé, d'ailleurs, un bruit feutré, parce que ça se passe dans les beaux quartiers, ça se passe au Trocadéro. C'est l'affaire Philippe Néjon. Philippe Néjon, polytechnicien. Marié à une femme qui est fille d'ambassadeur. On est dans les beaux quartiers.
Façade sans histoire.
On est dans la bonne société. 3 enfants, qui sont pas très grands, 8 ans, 13 ans et 6 ans. Et ce jour-là, les policiers sont alertés parce qu'il y a des coups de feu dans cet hôtel particulier où habite la famille Néjon. Et coups de feu dans ce quartier, c'est rare. Donc on se précipite, et là on va au premier étage, et on trouve Philippe Néjon qui est dans un semi-coma, il a bu de l'alcool et il a pris des médicaments. Et surtout on découvre un massacre dans cet immeuble. On retrouve effectivement un des garçons qui est tué juste à côté, on l'a tiré dessus à la vanne de Longriff. On découvre l'épouse qui a été massacrée à coups de crosse dans un escalier, et puis au sous-sol on découvre un des enfants qui est encore vivant mais il va décéder à l'hôpital, qui a été étranglé avec un lacet et frappé à coups de marteau. C'est dire la violence extrême de ce crime. Et il y a une petite fille qui s'appelle Isabelle, elle a 6 ans, et elle, on va la retrouver dans un placard. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que l'officier de police qui s'occupe de l'histoire, qui arrive, est un père de famille, il va être abasourdi. Et ça va le marquer à vie. On parle pas souvent des enquêteurs, mais ils sont confrontés à ce genre de... Et il va dire, j'ai vu la petite fille, elle ne pleurait pas. mais elle me regardait fixement. Et cette petite fille va porter, une femme aujourd'hui qui vit toujours, va porter toute sa vie cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Philippe Néjon, il supportait pas le divorce. Donc voilà, ça c'est un grand classique. Il va dire, pour un mari normal, le divorce, ça va, pour moi, c'est inadmissible. Il va se rétracter, il va avouer les faits à la sortie du coma, puis ensuite il va se rétracter, il y aura un procès, il écopera de 30 ans de prison, 20 ans de sûreté, il fera finalement 10 ans de prison. Voilà, ça c'est une histoire qui est frappante et qui est marquante parce qu'elle appelle à la psychologie et quasiment à la psychiatrie des acteurs. Et ça c'est très important en matière de crime, la psychologie, la psychiatrie.
Mais j'ai une question qui est à la fois bateau classique et impossible d'y répondre. Mais est-ce qu'il y a des points communs que vous retrouvez dans toutes ces affaires entre les coupables, les victimes? Est-ce qu'il y a des traits de caractère, des traits sociétaux? Comme vous disiez un peu, à chaque fois c'est à ce point-là différent qu'on ne peut pas préjuger.
Non, on peut pas préjuger. C'est très compliqué. Les psychologies sont très diverses et différentes. Je suis pas psychiatre du tout, mais les psychiatres expliquent ça très très bien, hein, notamment sur les tueurs en série, par exemple. Ça, c'est très variable d'un tueur à série à l'autre. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a aussi, j'ai envie de dire, le miroir renversé, c'est-à-dire que il faut parler des familles et des victimes. Nous, on en parle beaucoup dans l'heure du crime, et très souvent, vous voyez, j'écoutais à l'instant vos invités là, juste l'histoire avant de cette jeune femme, la mère de Betty, qui se bat pour sa fille. Il faut saluer les familles, parce que très souvent, et hélas encore trop souvent aujourd'hui, c'est grâce aux familles que les enquêtes repartent. Et ça, c'est important de le dire.
Regardez, j'avais le doigt sur la phrase. Les affaires portent toujours le nom des tueurs, plus rarement ceux de leurs victimes.
Ça, c'est la préface de l'ouvrage, effectivement.
Et c'est tellement vrai.
Alors vous dites, évidemment, vous dites l'affaire Fourniret.
Mais qui connaît les noms,
des victimes? Vous allez dire, effectivement, l'affaire Émile Louis. Qui connaît les victimes d'Émile Louis? Moi-même, je ne les connais pas par cœur.
J'en cherche un, je n'en trouve pas.
Voilà, mais j'essaie de les retenir. Et effectivement,
Francis Holm.
Voilà, Francis Holm, très souvent, les victimes, le tueur, l'assassin, chasse la victime. Et ça, c'est un peu en train de changer. Il y a une évolution en matière criminelle.
On va remettre les victimes, il y a longtemps, il y a 30 ans, au cœur du débat. Et sont nées des associations de défense des victimes. D'ailleurs, on parlait dans l'émission précédente, que vous connaissez par cœur, dans le sujet précédent, Julie, l'association de recherche des personnes disparues, ça n'existait pas à l'époque, tout ça.
Ils font un boulot formidable. Il faut bien le souligner, l'association, hommage à certaines associations, moi je pense toujours aux disparus de Lyon, c'est une région que vous connaissez parfaitement.
Très bien.
Là, effectivement, il y a eu un travail associatif.
Comment il s'appelait ce monsieur qui avait des cheveux bruns, là, qui avait monté l'association des disparus de Lyon? Merveilleux.
Le nom m'échappe tout de suite, mais
en tout cas, on pense à lui et tout le monde va le chercher sur Internet, c'est facile à trouver.
Est-ce qu'il y a un crime parfait aujourd'hui? Est-ce que c'est possible un crime parfait?
Ah oui, le crime parfait, il existe, puisqu'on ne sait pas. On ne le connaît pas. Il y a des crimes parfaits tous les jours. Il y a des crimes parfaits. Et également, et alors, il y a des spécialistes qui vous disent que les crimes parfaits, il y en a beaucoup de manière intrafamiliale. Ouais. Notamment avec parfois des histoires d'héritage, de personnes âgées, etc. Alors là, il y en a beaucoup. Voilà. Le crime parfait, c'est ça. Le crime parfait, il n'est pas révélé. Donc effectivement, il existe. Mais il y a d'autres histoires où ce ne sont pas des crimes parfaits.
Vous en avez une autre à nous partager?
Alors, oui, bien sûr.
J'allais vous demander la recette d'une bonne histoire, en fait. Mais si vous avez un exemple, ce sera encore mieux.
La recette d'une bonne histoire, c'est très très souvent, c'est le mystère.
Ouais.
C'est le mystère.
Le doute.
J'ai envie de vous parler de Jean Seberg.
Ouais. Hein,
Jean Seberg, à bout de souffle, etc.
Cette photo,
américaine.
On va rappeler, cheveux courts. T-shirt avec le...
Tout le monde se souvient. New York Herald Tribune, on connaît ça avec Belmondo, etc. Elle a incarné Jeanne d'Arc aussi. Et on est en 79 et on retrouve Jean Seberg à l'arrière de sa Renault 5 qui est mal garée dans une rue du 16e arrondissement. C'est un monsieur qui ne pouvait pas sortir sa voiture, qui est venu taper à la porte.
Il s'en passe des choses dans l'Ouest parisien, le 16e finalement.
Il y en a beaucoup dans les quartiers aisés et dans les beaux quartiers.
Ce n'est pas les mêmes meurtres que dans les autres quartiers.
Non, ce n'est pas les mêmes. Il y a une typologie, effectivement, presque géographique du meurtre. Ça, c'est important.
Pardon, vous interrompez.
Et donc, on retrouve Jean Seberg qui est morte à l'arrière de sa voiture. Et là, c'est pas à l'honneur tout à fait de la police à l'époque. Parce que je pense que l'enquête, elle est bouclée beaucoup trop rapidement. On va dire, c'est une dépressive. Elle avait des soucis. Elle s'est suicidée. Et d'ailleurs, on trouve dans son organisme énormément d'alcool. Une masse d'alcool terrifiante avec quelques neuroleptiques. Mais la masse d'alcool, elle est tellement puissante qu'on va se dire on lui a injecté de l'alcool. Ça, c'est un détail qui va troubler parce qu'on trouve aucune bouteille dans la voiture. Donc, c'est quelqu'un qui l'a mise dans la voiture. Alors, on va interroger son quatrième mari. C'est un Algérien, il s'appelle Ahmed Hasni. C'est un vaurien, Ahmed Hasni, c'est un petit escroc. Il lui a d'ailleurs volé de l'argent.
On a 2 minutes 30 encore, comme vous êtes un homme de...
Beaucoup d'argent
de radio, à Gene Saber.
Vous entendez vous.
Eh bien, ça donnera rien. Parce que très vite et trop vite, on a bouclé l'affaire en parlant de suicide.
Et on ne sait pas.
Et on ne sait pas aujourd'hui.
Donc ça revient au doute et au mystère.
Oui, ça revient au doute et au mystère.
C'est un cold case.
Un petit mot encore, Catherine Fournier, par exemple. Ça, c'est une histoire qui est étonnante. Catherine Fournier, c'est une jeune femme qui disparaît près de Nîmes. Son mari, un ancien légionnaire, il est à Paris. Ouais. Il ne peut pas avoir tué sa femme, etc. Sauf que les gendarmes, là, ils vont avoir beaucoup de pif. Ils vont dire à lui, il n'est pas clair. Ça va pas. Donc, ils vont établir le fait qu'il est sans doute rentré de Paris jusqu'à Nîmes pour venir tuer sa femme. On va la retrouver 2 mois plus tard, dépecée dans une forêt, quasiment décapitée. Et là, l'idée du juge, c'est de dire, on va faire une séance d'hypnose. On fait une séance d'hypnose et le gars en question, le mari, il va avouer, il a dépecé avec une scie, il parle d'une hache, il a été soulagé après une séance de transe. Il parle de lui à la troisième personne, sauf que effectivement, les avocats vont dire tout ça, ça vaut rien. Et les psys vont dire, on l'a dépossédé de ses moyens. Il y a eu une décompression, mais ça ne sera pas retenu.
Il y aura
un non-lieu. La famille a toujours pensé que c'était lui, mais effectivement, cette personne n'a plus été poursuivie par la suite.
Et c'est peut-être lui. Alors, c'est ça quoi, dans votre façon de raconter des histoires, vous dites son mari, c'est pas lui, il est pas là. Mais sauf que c'est peut-être lui quand même. Et en fait, c'est écrit comme vous le racontez à la radio. Pareil, avec tout un tas. Il y a des encadrés qui sont bien là sur une histoire. Vous faites un encadré et vous dites, à l'époque, parce que c'est important, on peut pas comprendre. Vous dites, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Les limites de la police scientifique dans les années 80. Vous racontez l'histoire et on risque de ne pas comprendre parce qu'aujourd'hui, ceux qui lisent n'ont plus les mêmes codes que ceux d'avant. Et vous expliquez, dans les années 80, c'était pas comme aujourd'hui. Donc voilà pourquoi cette affaire, on n'a pas trouvé, ou on a eu du mal à trouver.
La téléphonie.
Et ça, c'est bien.
La téléphonie, la DS, ça n'existait pas.
C'est pour ça que je vous posais la question sur le crime parfait, est-ce qu'il pouvait exister.
Il est de plus en plus difficile. Mais vous savez, les voleurs ont toujours quelques kilomètres d'avance sur les gendarmes.
Une seconde. Une passion en dehors du crime. Allez, une passion en amour.
L'automobile ancienne et sportive.
Ah, bravo. La passion que vous partagez avec
c'est
Dominique Crisé.
C'est pour ça qu'on est mon cher. C'est pour ça qu'on est ami.
Il connaissait la réponse à sa question. Merci beaucoup, Jean-Alphonse. L'heure du crime sur RTL,
évidemment. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique.
Et on vous aime.
Merci.
Et nous nous aimerons de nouveau la semaine prochaine. Numéro 296.
Bouquin avec Justine Vigneau.
Avec Justine Vigneau, votre rédactrice en chef.
Il rebondit toujours.
Anne Sefton, l'après-info.
Et merci à Dina.
Bon après-midi à tous. Bonne semaine.